Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Voici un texte de l'Écriture qu'il est impératif de connaître pour avoir une notion juste du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette affirmation de l'apôtre Paul, claire et catégorique, nous apprend quelque chose de très important. Elle dénonce une certaine mentalité religieuse, hélas très répandue, qui prétend, du moins dans la pratique, que le salut peut se gagner comme on gagne un salaire par son travail, donc essentiellement une question de mérite. Disons tout de suite qu'une religion fondée sur de tels principes est tout à fait faussée. Elle est même empoisonnée, car elle fait de Dieu le débiteur de sa créature. Elle favorise l'orgueil par une comptabilité de bonnes œuvres. Elle relègue dans l'oubli le sacrifice expiatoire du Christ. Elle exclut la grâce de Dieu. Or, notre texte affirme au contraire que le salut ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Le salut est un don de Dieu. En fait, tout ce que l'homme mérite, c'est la colère de Dieu, la mort, la séparation définitive d'avec Dieu. Mais le Créateur veut sauver son ouvrage. Malgré son indignité, il lui tend une main secourable et lui ouvre un cœur qui pardonne. C'est pourquoi les Écritures parlent de la grâce de Dieu. Parce qu'une grâce est une faveur non méritée. Sans tenir compte de la culpabilité de l'homme, Dieu offre son pardon, il relève l'être déchu, il l'accueille et le bénit. Pour nous faire sentir notre impuissance à accéder à ce salut par nos propres moyens, et la nécessité d'une intervention de Dieu. L'apôtre Paul se sert d'un langage vigoureux dans plusieurs de ses lettres. Par exemple, aux Éphésiens, il écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Par conséquent, aussi incapable d'œuvres méritoires qu'un mort est incapable de mouvement. Aux Romains, il démontre que la grâce dont nous bénéficions de la part de Dieu est vraiment une expression d'amour. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ajoute, dans le même contexte, que Christ nous a sauvés de la colère et que par sa mort nous avons été réconciliés avec Dieu. Lorsque Paul s'adressait aux Israélites de son temps, il avait fort à faire pour imposer cette doctrine du salut par grâce. Le juif était en général très légaliste. Il avait pour lui la loi de Moïse, et il s'appliquait à obéir à tous les préceptes de cette loi, tant dans ses aspects moraux que cérémoniels et civils. Il pensait que Dieu était dès lors tenu de le considérer comme juste. Souvenons-nous du pharisien de la parabole de Jésus. Il s'adresse à Dieu la tête haute, car il n'a rien à se reprocher. Il se vante de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Il énumère tout ce qu'il fait. On le sent prêt à revendiquer ses droits au salut. Cette même attitude, ce même pharisaïsme, se manifeste aujourd'hui encore chez celui qui estime qu'il mérite la bénédiction divine. D'où ce cri d'indignation de l'apôtre Paul, qui n'a rien perdu de sa virulence. Si l'homme peut être sauvé sur la base de ses propres mérites, Christ est donc mort en vain. La vérité, la réalité à laquelle tout homme doit faire face est la suivante, formulée sans embâge par l'Écriture. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire ou expiatoire. Et Paul ajoute, comme en un défi, « Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. » En effet, puisque le seul moyen pour l'homme de se présenter devant Dieu purifié de ses péchés, c'est d'accepter pour son propre compte le sacrifice expiatoire du Christ, livré pour ses offenses et ressuscité pour sa justification. Ceci nous amène à cette autre considération. Dieu accorde donc sa grâce à l'homme pécheur, au pécheur que nous sommes tous. Mais il ne faut pas déduire de cet enseignement que la grâce enveloppe, purifie et sauve le pécheur indépendamment de sa volonté et malgré lui. Le salut, la grâce, tout cela est un don de Dieu. Mais un don, ça s'accepte ou ça se refuse. Dieu ne veut pas contraindre, mais persuader. Retrouvons notre texte en Éphésiens 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y a deux aspects essentiels à ce salut, deux aspects nécessaires, indispensables l'un à l'autre. D'une part, l'offre de Dieu, et d'autre part, la réaction de l'homme à cette offre. Il ne faut pas perdre de vue la liberté de l'homme. Il peut choisir, il faut qu'il choisisse. D'où les nombreuses exhortations à l'action, à la décision, à l'engagement, à la foi, au repentir, au baptême, à l'obéissance, contenues dans les lettres et les discours des apôtres. En fait, ce sont des injonctions à se conformer aux conditions stipulées par Dieu pour accéder à cette grâce. Jésus est le Sauveur, c'est vrai, mais uniquement de ceux qui le reconnaissent, qui croient en lui et qui lui obéissent. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» demande un homme à l'apôtre Paul. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Ce même jour, il est baptisé avec tous les siens. « Que devons-nous faire ?» demandent les Juifs de Jérusalem aux apôtres, après avoir entendu leur prédication. On leur répond « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Demande un voyageur éthiopien à l'évangéliste Philippe qui lui parlait de Jésus-Christ. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, répond l'homme de Dieu. Nous voyons que l'homme est appelé à recevoir la grâce de Dieu. Il doit répondre à cette grâce. Nous savons que pour les premiers chrétiens, le baptême était une expression de la foi. Il n'était pas qu'un simple rite auquel il se soumettait bon gré mal gré, étant donné qu'on l'administrait par immersion, il figurait précisément et d'une manière poignante un ensevelissement et une résurrection. En vérité, un acte d'association à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ. « Vous êtes ressuscité avec Christ », dira l'apôtre Paul. Peut-on exprimer initialement, d'une manière plus solennelle et plus profonde, l'acceptation de la grâce de Dieu. Ainsi s'éclaire pour nous les termes de la mission que le Christ confie à ses disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Si la foi et le baptême donnent accès au sang purificateur du Christ et par là même à la grâce et à la rémission des péchés, le nouveau converti ne doit pas se croire hors de danger. Il doit veiller et prier. Il doit persévérer, lutter. Il doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Il peut tomber. Il peut même déchoir de la grâce. Mais Dieu est prêt à l'aider, à le soutenir lorsqu'il faiblit, à le relever lorsqu'il tombe. Cependant, il n'interviendra qu'avec le consentement, la volonté et la prière de son enfant. Si quelqu'un a péché, écrit l'apôtre Jean avec beaucoup de tendresse, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. La responsabilité de l'homme demeure entière, sa volonté intacte, ainsi que sa liberté. Il se peut qu'à cause des efforts conscients que le chrétien doit faire pour demeurer, croître et progresser dans la grâce de Dieu, paraisse la tentation de considérer ses efforts même comme méritoires. Une telle attitude met en oubli la grâce de Dieu, cette faveur non méritée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, parce qu'elle confond le simple devoir et les œuvres de mérite. Il y a une parabole de Jésus qui est sans équivoque à cet égard. « Qui de vous ?» demande notre Seigneur. Ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. La leçon est claire. Où est donc le sujet de se glorifier ? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.